France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début du XXe siècle, dans un monde sans informatique, une enseignante en littérature passionnée par Shakespeare se retrouvait propulsée en pleine Première Guerre mondiale à la tête de la première unité de décryptage des États-Unis, des années avant la création de la NSA et de la CIA. Comment est-elle devenue l'une des plus grandes spécialistes de cette discipline éminemment mathématique, la cryptologie, et quels furent ses principaux apports à ce domaine entre décodage d'échanges nazis ainsi que de milliers de messages secrets de la mafia? Science Chrono vous raconte aujourd'hui l'histoire de cette cryptologue très secrète, Elizabeth Friedman. Bonjour Noël Krajman.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice de mathématiques au Palais de la Découverte et vous animez le compte Instagram Histoire Curieuse de Maths. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter la vie de cette première cryptologue américaine que fut Elizabeth Friedman. Alors avant de décoder ensemble son parcours, je vous donne quand même le menu de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous ferons une archéologie du parfum et nous poserons la question des arômes des parfums antiques utilisés dans l'espace méditerranéen. L'occasion aussi de se demander dans quel contexte on utilise ces parfums et comment on les fabriquait. Mais avant d'aller respirer ces parfums antiques, on fait retour à l'histoire des sciences et à ce personnage que fut Elizabeth Friedman. Noël Krajman, pour commencer ce portrait, j'aimerais que vous nous donniez pour commencer quelques éléments biographiques concernant cette personnalité. Dans quel contexte est née et a grandi Elizabeth Smith, qui deviendra plus tard Elizabeth Friedman?
Alors, Elizabeth Smith provient d'une famille américaine nombreuse de l'Indiana et elle réussit à négocier avec sa famille de faire des études dans le supérieur, ce qui n'était pas évident à cette époque parce que les femmes avaient comme rôle d'être mère au foyer. Elle fait donc des études en littérature anglaise et en grec. Et après l'obtention du diplôme, elle exerce un des seuls métiers accessibles aux femmes à cette époque, enseigner dans les petites classes.
Il me semble que son père était très très opposé. Alors c'est une famille de Quakers et son père était très opposé à ce qu'elle fasse des études. Et ce qui lui a permis à elle de faire des études, c'est un arrangement. Il lui a dit « Ok, tu fais des études, mais tu me rembourseras l'argent que j'investis dans tes études, c'est ça ?»
Exactement, et le taux d'intérêt était de 6%.
Il y avait même un taux d'intérêt, donc il était dur en affaires, le père.
Très dur.
Donc du coup, elle fait le seul métier que peut faire une femme à cette époque-là, après des études universitaires, elle revient enseigner en tant qu'institutrice dans l'Indiana.
Exactement, sauf que ce travail ne lui plaît pas, et elle démissionne au bout d'un an. Elle décide de partir à Chicago pour aller trouver du travail. Mais en une semaine, elle ne trouve rien. Et donc, le dernier jour, elle s'accorde un petit plaisir en se rendant dans une bibliothèque pour consulter une édition originale des œuvres de Shakespeare.
Alors, elle quitte son métier pour partir à Chicago. Et là, à 24 ans, vous le dites, Noël Krajman, sa vie va changer. C'est ce qu'on va entendre dans notre archive du jour. Écoutez l'extrait de la retranscription écrite d'un entretien audio accordé le 6 juin 1974 par Elizabeth Friedman à la George C. Marshall Foundation de Lexington, dans Virginie. On s'est chargé de traduire le passage de cet entretien et la lecture vous est faite par Maïwenn Guizhou.
Je séjournais alors dans le quartier sud avec des amis et j'avais appris que la Newberry Reference Library, une bibliothèque privée située dans le quartier nord de Chicago, possédait un premier in-folio de Shakespeare, un original. Je n'en avais jamais vu. Je me suis donc rendue dans cette bibliothèque pour voir le livre de Shakespeare. Après ça, j'ai discuté avec la bibliothécaire qui était diplômée du Harlem College de Richmond, dans l'Indiana. L'Indiana est mon état d'origine. Mes nombreux ancêtres vivaient à Richmond et ont beaucoup contribué au développement de cette partie de l'Indiana. Je lui ai donc dit « Je cherche un emploi, avez-vous quelque chose à m'offrir ?» Elle m'a répondu « Il y a un homme qui m'a demandé de trouver une jeune personne versée dans la littérature anglaise et connaissant bien Shakespeare. Il s'agirait de faire des recherches pour lui dans sa propriété près de Chicago. » Voilà tout ce qu'elle m'a dit à son sujet. Et elle m'a dit « Je vais l'appeler et lui demander un rendez-vous pour vous. » Elle l'a appelé et il lui a apparemment répondu « J'arrive tout de suite. » C'est tout ce qu'il a dit. Georges Fabian a débarqué dans la bibliothèque en costume Prince Albert, rayé, avec une queue de pie, un pantalon rayé et un jabot à la place du col. Il déambulait avec un air très autoritaire. Il a dit « Voulez-vous passer la nuit avec moi ?» Vous pouvez imaginer, vu mon âge et mon inexpérience, à quel point cela m'a heurtée. J'ai bredouillé et j'ai dit que je n'avais pas d'affaires avec moi, que je n'étais pas prête à partir immédiatement sans savoir où. Il m'a dit « Eh bien, nous vous fournirons cela, n'y pensez pas. » Je l'ai suivi et nous sommes sortis. Sa limousine avec chauffeur nous attendait. Il avait un laboratoire d'ingénierie qui est entré dans l'histoire pour deux raisons. Ils avaient mis au point la sabinite, le matériau que l'on mettait dans les murs des auditoriums pour les insonoriser. À l'époque, ce genre de matériau n'existait pas du tout. Mais son département d'ingénierie avait également mis au point quelque chose qui, selon moi, ressemblait exactement à un diapason géant, et qui avait un rôle capital à jouer en lien avec la guerre. C'était secret, je ne savais pas vraiment ce que c'était.
Voilà, Noël Krajman, donc ce texte de, extrait d'un entretien, de la retranscription d'un entretien avec Elisabeth Friedman. C'est pas simple de trouver des archives d'Elisabeth Friedman et de trouver des recensions de ses écrits et même de ses témoignages, parce que beaucoup, beaucoup de ces documents qui la concernent ont été pendant longtemps classés secrets.
Oui, exactement. Ce n'est qu'en 2008 que certains de ces documents ont été déclassifiés. Sinon, ils ont été classés secrets parce qu'elle a travaillé durant les Première et la Seconde Guerre mondiale auprès de l'armée américaine.
Alors, on en revient là à ce tournant dans sa vie, ce premier tournant dans sa vie. À l'âge de 24 ans seulement, elle rencontre ce personnage qu'est George Fabian. Qui est-il, ce personnage qui vient la chercher et qui, de façon assez autoritaire, lui dit « Accompagnez-moi, j'ai un travail pour vous ».
Oui, c'est une histoire un petit peu romanesque. George Fabian, c'est un riche industriel qui est héritier d'une entreprise de coton. Et il n'a pas suivi beaucoup les cours, ni a été à l'université. Et donc, il a voulu prendre une revanche. Et il a créé à Riverbank un terrain de jeu scientifique. Où il embauche des scientifiques, des chercheurs, pour faire des recherches sur ce qu'il veut. Et donc, il va embaucher Elisabeth Smith pour faire une recherche sur Shakespeare. Parce qu'il est persuadé d'une théorie, il y croit dur comme fer, que c'est Bacon qui a écrit les œuvres de Shakespeare et non Shakespeare. Et donc, du coup, il demande à Elisabeth de prouver sa théorie, de vérifier si Bacon a bien écrit ses œuvres, c'est-à-dire si Bacon a inséré des code, une signature, si on peut dire, dans les œuvres de Shakespeare.
Alors là, on comprend bien finalement que c'est dans la lignée des études qu'a conduite Elisabeth Smith, qui viendra bien sûr peu de temps après cette arrivée à Riverbank, Elisabeth Friedman, cette lignée avec ses études de littérature. Et on entendait dans l'archive, elle parlait de cet in-folio de Shakespeare qu'elle voulait à tout prix aller consulter dans cette bibliothèque de Chicago. Donc on est loin pour l'instant de la cryptologie, des mathématiques, et on s'en rapproche quand même assez. C'est fort.
Oui, exactement. Parce que Bacon, il a créé sa propre méthode d'encodage. Et donc, Elisabeth, pour trouver la signature de Bacon, il faut qu'elle se familiarise avec cette méthode d'encodage. Alors, la méthode d'encodage de Bacon, elle consiste à remplacer les lettres de l'alphabet par un groupe de symboles de A et de B. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui le code binaire, où on utilise des 0 et des 1. À l'époque de Bacon, il a utilisé des A et des B. Et donc, le travail d'Elisabeth va consister à essayer de repérer les marques qui pourraient correspondre au A et au B. Parce que bien évidemment, il ne va pas mettre des A et des B dans tout le texte. Il devrait mettre des petites marques, comme par exemple un changement de police dans le texte, pour dire A, ça c'est des A, ça c'est des B, pour faire du binaire. Mais alors le travail, il est très fastidieux. Et heureusement, Elisabeth est très douée. Alors elle ne travaille pas toute seule, il y a une équipe. Et surtout, elle va travailler avec un monsieur qui s'appelle William Friedman. C'est un généticien, mais son hobby, c'est la photographie. Il va beaucoup l'aider parce qu'il va photographier les textes pour les agrandir, parce que c'est vraiment un travail minutieux pour repérer le moindre petit signe. Donc, ils vont travailler ensemble et ils vont même tomber amoureux.
Voilà, William Friedman, on va pas... Bon, c'est pas spoilé, c'est assez vite, assez transparent. Il va devenir son mari assez rapidement. Donc, ce William Friedman et Elisabeth Friedman, du coup, se marient assez rapidement. Ils restent quelques années quand même chez George Fabian. Est-ce qu'ils arrivent à percer ce code? Est-ce que les textes de Shakespeare ont été écrits par Bacon ou pas?
Alors, malgré des heures de travail, ils vont trouver aucune trace dans les œuvres de Shakespeare. Donc, ils vont conclure que Bacon n'a pas écrit ce texte. Donc, a priori, ça devrait bien être Shakespeare. Et ils écrivent même un ouvrage pour expliquer toute leur analyse ainsi que leurs conclusions.
Alors, on était en 1916 quand Elisabeth Friedman est arrivée à Riverbank, sur le domaine de Riverbank de George Fabian. La Première Guerre mondiale avait déjà éclaté. Les États-Unis n'entrent en guerre que le 5 avril 1917. Comment s'organise à cette époque-là le renseignement militaire? Est-ce qu'ils ont accès à des outils de décodage, de décryptage, ou bien est-ce que c'est encore assez sommaire?
Alors c'est assez sommaire, surtout que la Première Guerre mondiale est marquée par le développement des ondes radio et la transmission donc des messages à travers ces ondes. Et donc il y a beaucoup de messages à décrypter puisque bien évidemment les militaires vont crypter les messages qu'ils envoient par onde. Sauf que les États-Unis ne se sont pas préparés à ce décryptage militaire. Et donc George Fabian va proposer de créer à Riverbank une unité de décryptage et il va nommer Elizabeth et William chef de cette unité.
C'est incroyable de se dire que finalement la première unité de décryptage d'informations militaires sensibles aux États-Unis, dans ce pays-là, aussi important déjà à cette époque, est confié à un monsieur, à une entreprise, à une entité privée qui désigne et qui décide de qui va finalement gérer ce travail de décryptage.
Oui, exactement. C'est assez surprenant. Bon, je pense qu'il a réussi à bien négocier. Ça va pas durer durant toute la guerre. C'est pour commencer. C'est lui, en effet, qui va prendre un petit peu les rênes.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'arrivée de la radio à ce moment-là pour la transmission des messages codés, cryptés. À quoi ressemblent ces messages-là? Est-ce qu'ils sont finalement si différents que ça de ces messages chiffrés, secrets qu'on se transmet depuis quasiment les origines de l'humanité?
Alors, non, c'est souvent un petit peu les mêmes principes. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la méthode d'encodage de Bacon, ça c'est sûr. Et donc, Elizabeth et William, qui étaient juste familiers à la méthode d'encodage de Bacon, vont devoir apprendre sur le tas et se former. Ils vont également former leur propre unité et vont même, en se formant, écrire un ouvrage de 8 volumes intitulé « Publication Riverbank » où ils expliquent en fait finalement tout ce qu'ils savent et même un petit peu au-delà. Donc ils vont se former à plein de méthodes et une des méthodes peut-être très importante qui a duré durant des siècles et qui continue encore à durer, c'est l'analyse fréquentielle pour essayer de découvrir, de décrypter un message dont on ne connaît pas le chiffrement. Mmh. Alors l'analyse fréquentielle, ça consiste à calculer la fréquence d'apparition de chaque lettre dans une langue. Par exemple en français on utilise beaucoup le E et moins le W.
Ouais. C'est ce qui fait que, par exemple, les lettres au Scrabble ne sont pas les mêmes quand on change de langue. En anglais, il y a beaucoup plus de W qu'en français.
Exactement.
Si vous voulez briller en société, voilà, vous pouvez... voilà.
Exactement, le Scrabble a été conçu là-dessus. L'inventeur du Scrabble n'allait pas mettre dans le sachet autant de E que de W. Donc, en effet, il a fait une analyse fréquentielle de la première page du New York Times pour savoir la fréquence d'apparition de chaque lettre et ainsi faire son sachet du Scrabble anglais qui était le premier Scrabble. Et après, en français, on a modifié. Donc, en effet, évitez de jouer avec un Scrabble anglais pour écrire des mots en français.
Mais on s'éloigne de notre sujet. Revenons.
Alors, dans un message codé, il y a un symbole récurrent, ça devrait donc logiquement correspondre à une lettre qui est beaucoup utilisée dans cette langue. Et donc, c'est ce qu'ils vont utiliser, c'est une des méthodes qu'ils vont beaucoup utiliser pour décrypter assez efficacement les messages. Ils vont également aussi beaucoup travailler avec des traducteurs parce qu'ils ont besoin de connaître la langue pour savoir justement quelle lettre ou quel mot est le plus utilisé dans chaque langue.
Alors vous l'évoquiez, donc cette équipe de Elizabeth et William Friedman constitue une équipe. Cette équipe, vous le dites, voilà, est composée aussi de gens qui parlent plein d'autres langues parce que c'est nécessaire pour décrypter bien sûr des messages. Vous l'évoquiez aussi cette publication d'une méthode en 8 volumes qui elle va former toute une génération de cryptologues aux États-Unis. Mais on est d'accord que pour l'instant, dans ces 8 volumes, il n'y a pas vraiment de nouveauté. C'est juste qu'ils rassemblent vraiment l'état de l'art, l'état des connaissances autour de la cryptologie.
Oui, c'est principalement ça. Ils vont beaucoup un peu aussi, on va dire, analyser les instruments. Connus des époques anciennes, un petit peu aller au-delà, mais ils vont pas proposer une méthode nouvelle qui va radicalement changer toute la cryptographie.
Alors, il reste quand même jusqu'en 1920 sur le domaine de Riverbank, aux côtés de George Fabian, et puis une mouche les pique. Un jour, un matin, il décide de partir sans préavis. Pourquoi est-ce que William et Elizabeth Friedman quittent le domaine de Riverbank sans donner trop d'informations?
Alors, en fait, au bout d'un moment, l'armée américaine va quand même créer son unité de décryptage et ils vont embaucher William Friedman dans cette unité. William va partir en Europe et Elizabeth va rester elle seule à Riverbank parce que c'est une femme, elle peut pas être embauchée par l'armée. Et elle va attendre assez longtemps. ça va être long pour elle parce que ça va pas très bien se passer à Riverbank. Et donc, quand son mari va revenir, ils vont tout de suite repartir de Riverbank. Et William va trouver du travail à Washington. Donc, Elizabeth va le suivre. Et ils vont former leur famille. Et Elizabeth, elle a un peu de mal à trouver du travail. C'est difficile pour une femme d'avoir du travail. Donc, elle va principalement être mère au foyer et s'occuper de ses deux enfants.
Et en 1925, la sonnette sonne. Et là, il y a des gardes-côtes qui disent à Elizabeth Freedman, « Bon, on a peut-être besoin de vous quand même, madame. Venez nous aider. » Pourquoi à ce moment-là, ces gardes-côtes viennent la solliciter ses talents de cryptologue?
Oui, pour continuer cette histoire romanesque, en fait, à cette époque-là, il y a beaucoup de trafic d'alcool aux États-Unis parce que l'alcool était interdit. Donc, il y a toute une mafia qui va être mise en place pour vendre l'alcool. Et donc, les gardes-côtes vont frapper à la porte d'Elizabeth pour qu'ils les aident à décrypter des messages qu'ils n'arrivent pas à décrypter.
Il y en a beaucoup.
Eux, leur problème, enfin la plupart de ces messages-là, c'est parce qu'il y a un gros bateau qui va attendre en mer avec toute la cargaison de l'alcool. Et il va y avoir des petits bateaux qui vont faire le lien entre la grosse cargaison et la côte. Ces petits bateaux vont s'envoyer des petits messages pour s'informer où se trouvent les gardes-côtes pour les éviter. Donc Elizabeth va travailler sur ces messages-là et essayer de les décrypter. Elle est quand même très douée parce qu'en 3 mois de travail, elle arrive à décrypter 2 ans de messages non décryptés.
On imagine la pile de dossiers qui l'attendait quand elle a dû rentrer dans ce bureau. Enfin, c'est très très cinématographique aussi cette histoire. On imagine vraiment ces scènes à la fois drôles et sérieuses, quoi. Elle s'empare de ces dossiers-là. Comme vous le dites, donc en 3 mois, elle arrive à décrypter 2 ans de messages non décodés. Quelles sont les stratégies de codage utilisées par ces mafieux? Est-ce que c'est les mêmes que les précédentes dont on parlait?
Oui, ça, c'est souvent un peu la même chose. Il y a aussi une notion aussi qui est importante, c'est la clé d'un message. Donc, on fait de l'analyse fréquentielle quand on ne connaît pas la clé d'un message, mais parfois, on peut découvrir aussi la clé. Une clé, c'est quand, par exemple, on décide de chiffrer un message en remplaçant une lettre par une autre lettre, mais cette lettre, par exemple le A qu'on va remplacer par d'autres symboles, en fonction de sa position dans le texte, va avoir différents symboles. Et donc, pour que l'autre personne, le destinataire, puisse décrypter le message, il a une clé, c'est-à-dire qu'il sait, on va dire, la logique qu'il y a derrière pour décrypter ainsi le message. Et donc, le but d'Elizabeth à chaque fois, c'est de découvrir les clés pour que ce soit beaucoup plus efficace pour ainsi décrypter tous les autres messages.
Alors, quel va être l'impact et l'effet de l'arrivée d'Elizabeth Freedman dans le démantèlement de ces réseaux mafieux de contrebande d'alcool en pleine période de prohibition qui dure de 1920 à 1933? C'est vraiment une vie particulièrement intéressante parce qu'elle est à la fois cachée dans cette grande histoire à ces endroits qui sont aussi connu finalement de tout le monde, la Première Guerre mondiale, la période de la prohibition aux États-Unis, puis on va le voir dans un instant, la Seconde Guerre mondiale. Quel est son rôle là dans ce démantèlement justement des réseaux?
Alors, son travail est tellement indispensable, et il y a tellement de travail aussi, cette pile de dossiers, que les gardes-côtes vont créer une unité pour elle, et ils vont la nommer cryptanalyste en chef. Donc, elle va pouvoir embaucher qui elle veut et aussi avoir un salaire, ce qui est aussi très rare pour les femmes à cette époque. Et donc, grâce à son travail, elle va donc non seulement décrypter les messages, mais en plus, elle a une idée ingénieuse, c'est-à-dire qu'elle va accumuler les données qu'elle a décryptées à travers les messages. Et grâce à ça, elle va pouvoir reconstruire tout le réseau de mafia. Et ainsi, elle va pouvoir donner toutes ces informations à l'État et poursuivre la mafia en justice. Et sous protection policière, elle n'hésite même pas à comparaître comme témoin contre eux.
Ce qui, on peut le dire, est assez courageux quand les mafieux de l'époque s'appellent Al Capone et qu'on témoigne à visage découvert quand on est une femme. Alors, du coup, ça lui vaut de faire la une des journaux.
Exactement.
Alors, j'ai vu quelques titres, dont celui-ci, « Le gang d'Ezra tombe dans le piège d'une femme experte en puzzle ». Isaac Ezra, c'était l'un des chefs de gang de trafiquants de drogue. Il y avait d'autres titres qui évoquaient cette belle femme qui protège les États-Unis. Donc voilà, là, on est encore dans tout ce registre-là. On arrive, du coup, coup, après cette période de prohibition, on va sauter un peu dans le temps. On arrive en 1941, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, l'attaque de cette base navale américaine qui fait que les États-Unis vont aussi entrer en guerre. Qu'est-ce qui change là par rapport à la Première Guerre mondiale en termes d'échange d'informations secrètes entre militaires, et comment Elizabeth Friedman va se retrouver à nouveau dans cette traque de messages secrets militaires?
Alors, Elizabeth, donc, elle travaille auprès des gardes-côtes et son unité va être transférée auprès de la marine. Et cette unité va être chargée de décrypter des messages entre les groupes nazis d'Amérique du Sud et de l'Allemagne. Parce que, à cette époque-là, le nazisme se développe beaucoup en Amérique du Sud et il y a même des coups d'État qui sont en train d'être faits. Donc, elle va travailler sur le nazisme qui se développe en Amérique du Sud et également sur tout ce qui concerne l'Atlantique. Parce que, encore à cette époque-là, les sous-marins nazis essayent de couler les bateaux, on va dire, alliés. Et donc, au début de la guerre, ça se passe plutôt mal pour du côté allié. Et petit à petit, finalement, Elizabeth et son unité vont réussir à décrypter des messages et renverser la situation en Atlantique.
Alors là, dans cette traque des espions nazis en Amérique latine, il y a plusieurs actions qui font que Elizabeth Friedman, voilà, permet de déjouer quand même des attaques contre des navires tels que le Queen Mary, qui embarque quasiment 8000 marins. Donc elle sauve quand même au passage 8000 vies humaines.
Bien plus.
Voilà, si on devait faire le décompte des nombres de vies qu'elle a contribué à sauver, ce serait assez colossal. Il y a dans cette histoire l'histoire d'un chef de réseau nazi qui était surnommé Sargo et qui échappe aux mailles du filet et qui fait importer un prototype d'une machine qui aura son importance, c'est la machine Enigma. Alors, en quoi consiste ce prototype-là? Qu'est-ce que c'est qu'une machine Enigma dans sa version prototypale?
Alors, peut-être avant expliquer pourquoi Enigma arrive en Amérique du Sud, parce qu'au début c'était pas le cas. Alors donc Elizabeth, elle arrive à décoder les messages, mais elle fait la même méthode qu'elle a utilisée pour la mafia, c'est-à-dire qu'elle reconstruit tout le réseau nazi d'Amérique du Sud. Et un jour, le directeur du FBI décide de s'attribuer la victoire de l'Atlantique et fait arrêter les quelques espions
qu'avait
découvert Elizabeth, exactement. Sauf que c'est la pire chose à faire quand on traque les espions, c'est de les arrêter alors qu'on est en train de les surveiller. Donc ça va alerter Sargo, le chef SS d'Amérique du Sud, et donc il va décider de changer sa méthode de décryptage. Il va importer d'Europe la machine Enigma. Et donc là, cette fois-ci, Elizabeth n'est plus face à des humains qui s'échangent des messages, mais maintenant elle fait face à une machine. Alors, en Europe, on connaît l'histoire d'Alan Turing, qui est assez répandue, qui lui va construire une machine pour faire face à cette machine. Aux États-Unis, peut-être pour des raisons budgétaires, Elizabeth ne peut pas construire de machine. Elle continue à avoir son papier et son crayon pour faire face à cette machine. Alors, elle a de la chance quand même parce que la machine Enigma qui est importée en Amérique du Sud, elle est moins robuste que celle qui est utilisée en Europe. Donc, entre guillemets, un petit peu plus facile, mais ça reste une machine très, très complexe.
On peut expliquer peut-être un peu le fonctionnement global de cette machine Enigma. C'est très, très technique, mais on peut au moins expliquer les grands principes.
Oui, exactement. La machine Enigma, en fait, c'est comme une machine à écrire. Quand on tape dessus, ça va changer une lettre en une autre lettre. Et pour cela, ça va passer par tout un circuit, on va dire, électrique, par des rouages qui vont à chaque fois rechanger la lettre et encore et encore et encore. Donc, il va y avoir plein de combinaisons jusqu'à donner la dernière lettre, la lettre codée. Donc, il y a tellement de combinaisons et de possibilités que c'est très dur de trouver la clé, de calculer toutes les clés. En fait, ça prendrait un temps infini pour un humain. C'est pour ça qu'Alan Turing utilise une machine. Et donc finalement, en tant qu'humain, c'est pas possible de faire face à la machine Enigma. Mais heureusement pour elle, quand on n'a plus d'espoir, Elizabeth espère la seule chose qu'on peut espérer, c'est que l'ennemi fasse une erreur. Et heureusement pour elle, l'ennemi commet une erreur. Un jour, 28 messages sont envoyés avec la même clé.
Donc ça veut dire que 28 messages ont le même point de départ, ce qui signifie qu'on peut connaître le point d'arrivée de ces 28 messages. Et donc ça va permettre à Elizabeth Friedman de décoder ces messages-là.
Exactement, de savoir comment la machine a été programmée, on va dire, pour ensuite écrire le message. Et donc comme ça, elle va pouvoir rentrer dans les rouages de la machine, connaître un peu la programmation de cette machine, si on peut appeler ça programmation, et ainsi décrypter les messages de nouveau et de nouveau surveiller les nazis d'Amérique du Sud.
Quels effets vont avoir du coup ce décryptage de cette machine Enigma ? Vous l'expliquez, qui était peut-être moins performante que celle qui était présente en Europe, mais sur voilà, ces réseaux nazis en Amérique latine.
Ça va permettre donc d'éviter de nombreux coups d'État et que les États-Unis finalement puissent intervenir en Europe et qu'ils n'aient pas à combattre sur leur territoire. Et donc ça, finalement, ça, heureusement pour nous, ça fait en sorte qu'on puisse libérer la France.
Alors du coup, après la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth Friedman, est-ce qu'elle continue d'être embauchée par l'armée américaine ? Est-ce qu'elle retourne à ses affaires courantes de cryptanalyste en chef des gardes-côtes ? Comment se déroule cette après-guerre pour elle ?
Alors en fait, à 54 ans, elle est mise à la porte, à la retraite.
Avec beaucoup de reconnaissance.
Beaucoup, elle ne doit rien dire, comme c'est que des dossiers secrets défense. Et donc, en fait, c'est les ordinateurs qui vont la remplacer. C'est le début des machines, des ordinateurs. Et ils vont mettre fin à l'ère du déchiffrage à la main. Je pense que c'est une des dernières à avoir déchiffré avec du papier crayon les messages écrits.
C'est une question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai qu'en 1947, on crée la CIA aux États-Unis, la Central Intelligence Agency. Puis en 1952, la NSA, la National Security Agency. Et là, c'est vraiment le tournant de l'informatique qui est pris. Et finalement, c'est la fin d'un monde. C'est la fin du monde d'Elizabeth Friedman à ce moment-là. Et elle retourne finalement à l'anonymat et à l'oubli.
Exactement. En tout cas, c'est la fin, quasiment, enfin, la fin du monde papier et crayon. Mm-hmm. Maintenant, la cryptanalyse, c'est beaucoup plus. Donc, c'est très mathématique et surtout très informatique. Donc, on va plus embaucher des informaticiens et créer des machines. Et la CIA donc va plus embaucher ce genre de personnes. Et donc oui, ça va être très compliqué la fin de vie pour Elizabeth Smith Friedman. Elle doit rien dire sur ce qu'elle a fait, bien évidemment. Et une retraite à 54 ans et un faible salaire quand même durant toute sa vie, même si elle a travaillé. C'est une femme, donc on donnait un salaire beaucoup plus faible aux femmes. Ça fait une fin de vie assez difficile. Notamment que William Friedman, il a fini avec une forte dépression parce que lui aussi il s'est occupé à décrypter des messages durant la Seconde Guerre mondiale, mais il s'est occupé surtout côté Europe. Et lui, c'est un juif, donc il a sûrement eu accès à des informations qui ont dû beaucoup le traumatiser.
Alors du coup, on parle d'Elizabeth Friedman de plus en plus. Il y a un très beau documentaire qui est diffusé en ce moment sur la plateforme d'Arte. Comment expliquer finalement, on l'a suggéré tout à l'heure, mais comment expliquer que Elizabeth Friedman finalement a été aussi longtemps oubliée, méconnue, malgré son rôle clé dans des conflits aussi importants que ceux qu'on vient d'évoquer ?
Bon, alors probablement parce que c'est une femme, on l'a pas non plus tout de suite mise en avant. Et surtout que ce que je disais au début de l'émission, ce n'est qu'en 2008 que les informations la concernant ont été déclassifiées. Donc on n'avait pas accès à sa vie, à toutes ces informations. Et depuis, il y a 3 livres qui ont été publiés en anglais pour raconter sa vie. Mais ça arrive petit à petit en France. Ça commence petit à petit à arriver dans des émissions comme celle-ci. Ça commence à arriver jusqu'à
nous. Est-ce que tous les documents ont été déclassifiés ou est-ce qu'il en reste encore à découvrir et peut-être à exploiter, à étudier plus tard ?
Alors, j'ai l'impression qu'il y a encore des documents classifiés parce que j'ai beau avoir beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup de mal à trouver les messages secrets qu'elle a décryptés durant les guerres, comme la Seconde Guerre mondiale. Donc, à mon avis, il y a encore beaucoup de secrets sur sa vie.
Et ben, vous reviendrez nous en reparler dans 25 ans de ces secrets qu'on aura redécouverts d'Elizabeth Friedman. Merci beaucoup, Noël Krajman, d'être venu nous parler aujourd'hui de cette figure restée secrète pendant autant de décennies. Secret Code par Lalo Schifrin dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir décrypté l'histoire d'Elisabeth Friedman, on arrive à présent au deuxième temps de cette émission. On va parler comme tous les vendredis d'archéologie et je sais pas pourquoi, ça sent bon.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Les parfums qui volent dans l'air sont aussi évanescents que le temps. Quel plus beau défi alors pour l'archéologie que de partir à la recherche de ces senteurs du passé que fabriquaient les humains pour les morts, les vivants et les dieux. On se concentrera aujourd'hui sur la période de l'Antiquité, durant laquelle la Méditerranée a vu circuler quantité de parfums sous toutes leurs formes, que tentent aujourd'hui de recomposer des archéologues entre archéologie des sens, archéologie expérimentale, chimie et sciences biomoléculaires. Comment fabriquait-on les parfums dans le monde méditerranéen antique et sous quelle forme se présentait-il? Quelles étaient les différentes fonctions de ces parfums? Enfin, quelles senteurs flottaient dans l'air et flattaient l'odorat des humains de l'Antiquité? Pour faire ce voyage dans l'arôme antique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un de ces apprentis parfumeurs et scientifiques confirmés, Dominique Frère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes céramologue, professeur d'archéologie et d'histoire ancienne à l'Université Bretagne Sud et vous êtes membre du laboratoire Thémos pour temps, monde, société. Merci beaucoup de venir affûter notre sens de l'odorat aujourd'hui et de nous aider à connaître ces parfums antiques, mais aussi de nous aider à comprendre comment on peut ressusciter ces arômes parfumés des temps antiques. Pour commencer notre discussion, j'aimerais évoquer avec vous une étude qui nous a donné envie de parler de ce sujet. Cette étude a été conduite par une équipe danoise. Elle est parue en mars 2025 dans l'Oxford Journal of Archaeology et elle rappelle un fait qui est méconnu des non-spécialistes concernant les statues de marbre gréco-romaine. Si on savait déjà que durant l'Antiquité, elles étaient couvertes de peintures polychromes et parfois même vêtues, on sait moins souvent que ces statues étaient enduites d'huile parfumée et c'est sur ce sujet que se concentre l'étude en question. Alors Dominique Frère, comment vous avez perçu cette étude-là, pouvez-vous nous rappeler finalement la fonction de ce parfumage des statues qui nous semble, à nous, avec nos yeux de contemporains, assez exotique?
Oui, alors évidemment, les résultats sont très intéressants et viennent confirmer un nombre de connaissances que nous avions déjà, donc grâce aux sources textuelles et grâce aussi à d'autres analyses qui avaient été faites il y a déjà quelques années. Alors le fait de, ce n'est pas seulement les statues de marbre ou les statues de pierre que l'on va parfumer, on parfume aussi par exemple les statues en bois, les statues de bois sont nombreuses dans l'Antiquité. Et plus on recule dans le temps, en fait, ces statues en bois étaient nombreuses. Et en effet, on les recouvrait d'huile parfumée. Alors, d'huile parfumée, donc dans l'article, c'est de l'huile parfumée à la rose, ce qui n'a strictement rien d'étonnant parce que, on va dire, dans le premier texte de notre culture occidentale, donc à savoir l'œuvre d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, Aphrodite se parfume à la rose.
Alors, du coup, ces parfums donc enduisaient les statues. Vous évoquiez la différence des matériaux de ces statues, statues de bois, statues de marbre. Il y avait aussi des statues de métal. On peut déjà être dans une forme d'entretien aussi des statues avec le recours à ces huiles parfumées. Est-ce qu'il y avait une double fonction de ces huiles-là pour les statues?
Oui, bien sûr, il y avait une double fonction. C'est-à-dire que de l'huile à la rose, on va en recouvrir donc le corps des défunts, le corps des vivants, mais aussi les statues. Les statues de divinité. D'abord parce que c'est la bonne odeur, qui est la bonne odeur de l'Olympe, la bonne odeur naturelle des divinités. Mais non seulement on est dans la bonne odeur, mais on est aussi dans la luminosité, dans la brillance, puisque c'est de l'huile, c'est une matière grasse. Cela permet donc d'entretenir en effet les statues, surtout quand on a affaire à des statues en bois. Et surtout, l'huile à la rose, on sait que par exemple, chez Asclépios, par exemple, on sait que l'huile à la rose est fortement utilisée justement pour nombre de guérisons. Mmh. Et donc, on a vraiment cette notion qui est liée à la santé et aussi à l'entretien des statues.
On parle des statues. Est-ce que d'autres éléments, on va dire, mobiliers étaient parfumés dans ces lieux qu'étaient les temples ou bien même les tombeaux?
Alors, on va dire, les sanctuaires sont des lieux où les odeurs sont très nombreuses, des odeurs de sacrifice, justement, jusqu'aux odeurs des parfums. Dans les nécropoles aussi, nous avons des odeurs de parfums, puisque là, ça correspond à des analyses qui ont été faites et qui continuent à être faites dans différentes nécropoles, que l'on soit dans le monde grec, dans le monde étrusque, dans le monde romain. On s'aperçoit qu'on va aussi enduire parfois la porte de la tombe, on va enduire la stèle funéraire, par exemple. Et on va faire des offrandes liquides, des offrandes d'huile parfumée aux défunts.
Alors vous parliez tout à l'heure des sources pour comprendre voilà, la fabrication de ces parfums. Quelles sont les différentes sources dont vous disposez, vous, en tant qu'archéologue, pour comprendre non seulement les usages, mais aussi les modes de fabrication, de production, de transmission de ces parfums?
Alors les sources, évidemment, les sources textuelles. Alors deux catégories de sources textuelles. On va dire d'abord les textes grecs, les textes latins. Tout ce qui est inscription, l'épigraphie joue aussi un rôle très important, dont parfois des inscriptions sur les vases à parfum eux-mêmes. C'est rare, mais heureusement, on en a quelques-unes. Il y a les fouilles archéologiques, c'est-à-dire les ateliers de parfumerie. Et chose curieuse, ces ateliers de parfumerie donc sont très rares. Donc c'est en particulier Jean-Pierre Brun qui les a fouillés. Et on n'a qu'un très faible nombre donc d'ateliers de parfumerie, même à l'échelle de l'Empire romain. Les autres sources, c'est tout le matériel, c'est tous les vases à parfum. Et là, on en a des milliers et des milliers et des milliers de vases à parfum.
On va y venir à ces vases à parfum, mais vous évoquiez la figure de Jean-Pierre Brun qui est capitale dans cette histoire de l'archéologie du vin, de l'huile. Si on fait un petit détour du côté de l'histoire de l'archéologie, c'est finalement un thème assez récent, cette archéologie des sens. Et on l'évoquait avec la première source, c'est les textes. Comment on passe des textes à votre travail, à vous, qui essayez de reconstituer des parfums antiques?
Celui qui a écrit, le premier ouvrage de synthèse, c'est Paul Fort, dans les années 1980. Donc l'ouvrage Parfums et aromates dans l'Antiquité. Alors déjà, cette synthèse, évidemment, est une synthèse de très très bonne qualité scientifique. Mais après, passer des textes à la culture matérielle, évidemment, c'est autre chose. Et en fait, il fallait s'intéresser à l'histoire des techniques. Et on peut dire que c'est Jean-Pierre Brun qui a fait beaucoup justement pour le développement de cette histoire des techniques, en fouillant ce dont vous venez de parler, tout ce qui est lié à l'archéologie du vin, à l'archéologie de l'huile. Et donc la technique de fabrication du vin, la technique de fabrication de l'huile. Et si on travaille sur l'huile, forcément, on travaille sur les huiles parfumées et les huiles médicinales.
Alors, on est dans cette antiquité méditerranéenne. On va aller entre le 7e siècle et quelle période, finalement, couvre vos travaux de recherche à vous?
Alors, nous, on travaille, quand je dis nous, parce que nous, c'est parce que, évidemment, c'est un travail d'équipe.
Bien sûr.
C'est vraiment un travail transdisciplinaire. On va de la fin de l'âge du bronze jusqu'à la fin de l'Antiquité. Comme on travaille en Méditerranée occidentale, on n'a pas la même chronologie que pour la Méditerranée orientale. On va dire en gros qu'on travaille pour une période qui va de 1200 avant jusque vers 500 après.
Alors on parlait des sources tout à l'heure, on parlait des textes, on parlait de l'épigraphie, de ces inscriptions, on parlait du mobilier, donc de ces milliers et milliers de céramiques qui ont été l'objet de votre travail de recherche. Il y a aussi l'iconographie, les peintures, les fresques qui nous permettent de nous mettre face à ce mobilier en train d'être utilisé d'une certaine façon. Mais d'abord, une question simple, c'est quoi un parfum durant l'Antiquité? C'est la même chose qu'aujourd'hui?
Les parfums antiques n'ont strictement rien à voir avec les parfums actuels. Et si j'étais arrivé dans ce studio recouvert d'une huile parfumée étrusque ou grecque, donc je pense que vous auriez été surpris. Déjà par mon aspect. J'aurais brillé de mille feux. Et sans doute par mon odeur, tout simplement. D'autant plus que c'est en particulier sur la chevelure, sur la poitrine, donc on utilisait de bonnes quantités de parfums. Et en plus, il faut rajouter au parfum et à l'huile parfumée, il faut rajouter les couronnes fleuries, les couronnes végétales, qui diffusaient elles-mêmes leur propre odeur.
D'où venait ce goût pour des parfums que vous semblez déjà suggérer assez forts?
Alors fort, il y avait deux types de parfums. Il y avait vraiment les notes fleuries, donc des parfums qui étaient légers, dont le parfum à la rose par exemple. Et il y avait des notes boisées, des notes résineuses, donc des parfums beaucoup plus forts. À l'origine, dans le monde méditerranéen, c'est d'abord la divinité, c'est d'abord et avant tout les rituels. Et quand les hommes utilisent, quand je dis les hommes, c'est évidemment les hommes, les femmes, les enfants, utilisent du parfum, c'est pour se donner une petite part de divinité, en fait.
Est-ce que tout le monde utilise du parfum dans l'Antiquité? Est-ce que c'est un marqueur social fort ou bien est-ce que tout le monde a sa petite fiole d'huile parfumée?
Alors, bien sûr que c'est un marqueur social fort, et même très, très très fort. Une fois de plus, par l'apparence et par les odeurs. Si vous achetez un parfum exotique, évidemment que vous mettez en évidence, on va dire, votre œil, votre dimension sociale, aristocratique en particulier. Mais on s'aperçoit, si on prend le cas d'Athènes, parce qu'évidemment Athènes, c'est le cas le plus connu, au niveau des images, par exemple, on voit que les citoyens donc ont à la main, ou plutôt suspendu au poignet, le petit haribal. Alors l'haribal, c'est pas forcément que pour les huiles parfumées, c'est aussi pour l'huile d'olive, donc qui est celle de l'athlète. Mais quoi qu'il en soit, on voit que tous les citoyens, enfin ceux qui vont au gymnase, donc portent l'haribal.
L'haribal, c'est donc ce petit contenant en céramique qui permet de transporter ces huiles et de se parfumer.
Alors là aussi, il y a une dimension sociale. Si je suis riche, le contenant ne sera pas en céramique, il sera en argent. Si je suis très riche, il sera en or. Un peu moins riche, il sera en bronze ou en plomb. Si je ne suis pas riche, bien le petit contenant sera en céramique. Ou sinon en cuir, petit contenant en cuir.
Quels sont les contenants justement connus pour ces huiles parfumées de l'Antiquité ? Il y a toute une gamme, des familles différentes d'objets qui contenaient les huiles parfumées ?
Oui, alors bon, on fait toute une typologie hein, de ces contenants, en sachant que tous les noms que leur donnent actuellement les sites, Haribal, Alabas, c'est une typologie qui ont été édifiées à partir du 19e siècle. On a les inscriptions parfois sur les vases qui nous permettent de savoir le nom que donnaient eux-mêmes les Grecs donc à ces contenants. Après, c'est la matière, en fait, c'est le matériau qui est le plus important. Et Théophraste qui nous dit que pour les parfums les plus précieux, il faut utiliser soit des vases à parfum en métal, soit des vases à parfum en albâtre, en pierre.
Que sait-on ? Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'on avait peu d'ateliers de parfumeurs identifiés pour cette période de l'Antiquité. Que sait-on de la fabrication de ces parfums antiques ? Comment étaient-ils produits ? Suivant quelle méthode ?
Alors, on le sait à partir justement des fouilles de Jean-Pierre Brun, mais aussi des textes, et en particulier des textes de Théophraste, de Dioscoride, mais aussi de Pline l'Ancien. La méthode principale, c'est l'enfleurage. Que ce soit l'enfleurage à froid ou l'enfleurage à chaud, c'est-à-dire la macération. Si vous avez donc des matériaux végétaux qui sont très fragiles, comme les pétales de rose, par exemple, là, ça va être un enfleurage à froid ou un enfleurage ou avec une huile qui est très, très peu chauffée. Si vous avez des matériaux beaucoup plus solides, enfin beaucoup plus résistants, comme le thym, comme le laurier, là, ça va être un enfleurage à chaud et parfois même donc de l'ébullition.
De l'ébullition. Est-ce qu'on a aussi des eaux parfumées ? Parce qu'on a parlé beaucoup d'huile. On n'a pas encore parlé non plus des parfums secs, les encens,
non,
etc. qu'on brûle.
Non.
Alors on peut en dire deux mots peut-être de ces parfums secs.
Oui, en fait, on a plusieurs catégories de parfums. Donc il y a les parfums liquides, ou on va dire des parfums fluides. Et il y a les parfums secs. Eh bien les parfums secs. Alors c'est celui qu'on connaît le plus aujourd'hui encore actuellement et qui est toujours représentatif de la divinité. C'est l'encens.
Mm-hmm.
C'est l'encens, et là, de l'Antiquité jusqu'à maintenant, l'encens est toujours représentatif. L'encens signe la présence invisible de la divinité. Bien avec l'encens, avec l'encens au Liban, avec la myrrhe, avec le labdanum, on a ici des parfums qu'on va faire brûler.
Mm-hmm.
D'ailleurs, c'est le nom même du parfum, hein, perfumum, ça veut dire à travers la fumée.
Alors, je reviens à la question, après avoir présenté ces parfums secs et ces encens, à cette question des eaux parfumées et de la question des distillats aussi. Est-ce que c'était quelque chose qui était très pratiqué durant l'Antiquité ? Et le fait de rendre une eau parfumée ?
Alors ça, en fait, on ne le savait pas. On pensait qu'il n'existait justement que les parfums secs, on va dire les gommes résines en particulier, et souvent les gommes résines exotiques, et les huiles parfumées. Sauf qu'il y a eu des découvertes archéologiques qui datent déjà il y a quelques années, c'est nos collègues italiens à Chypre en particulier qui ont fait cette découverte. Ils ont fait la découverte d'un alambic. Donc un alambic en céramique. Alors évidemment, dès qu'on nous dit qu'un alambic a été découvert, on se dit bon, c'est une extrapolation, c'est une exagération, puisque les alambics n'apparaissent qu'à l'époque médiévale. Eh bien non, c'est véritablement un alambic en céramique, un alambic rudimentaire, un alambic archaïque, et qui permet en fait de faire ce qu'on appelle la proto-distillation. Donc avec ce type d'alambic, on ne peut pas faire d'huile essentielle. Les huiles essentielles, les alcools forts n'existaient pas dans l'Antiquité. Par contre, on faisait des distillats, et on en a fait. Donc, on a fait des distillats de rose, donc c'est-à-dire des eaux de l'eau à la rose, qui est très très agréable.
Alors, on parlera bien sûr de vos travaux d'apprenti chimiste et de reconstitution et de recomposition de ces parfums antiques. plastique. On est d'accord qu'un parfum, c'est volatile, qu'on n'a pas retrouvé de flacon qui contenait encore du liquide parfumé. Alors, est-ce qu'on a quand même un indice quand on ouvre un de ces flacons archéologiques de l'odeur et de ce que ça contenait?
Alors, des flacons qui contiennent des liquides, non, moi, je n'en ai pas connaissance. Par contre, des flacons qui sont encore pleins de leur contenu d'origine, mais le contenu qui s'est solidifié, non seulement on en a, mais en fait, on en a pas mal. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'idée d'en faire les analyses. Donc, les flacons sont nombreux et parfois des flacons qui ont encore leur contenu visible. Alors, est-ce qu'ils dégagent une odeur? La plupart du temps, non. On avait travaillé avec des nez, des professionnels de la parfumerie. Et puis, les odeurs, en fait, c'était, on va dire, l'odeur de cave parce que donc ces vases à parfum venaient de tombes en particulier. Sauf à quelques exceptions, depuis le 19e, on va lire dans les rapports de fouilles que les archéologues qui entrent dans une tombe, les archéologues qui ouvrent un flacon, donc vont être subjugués par une délicate odeur qui se dégage de l'ouverture du flacon. Nous, ça nous est arrivé en Sardaigne, au musée de Cagliari, on a ouvert un petit flacon phénicien en verre et donc on a une forte odeur mentholée qui s'est dégagée de ce petit flacon. Sur le coup, donc c'était tellement surprenant parce que c'est la première fois que ça nous arrivait que j'ai pensé que l'un d'entre nous, moi, donc mâchait du chewing-gum et donc ce n'était pas le cas. Et en fait, les analyses ont pu prouver que... Alors évidemment, ça a été très volatile, ça a disparu presque très vite, immédiatement. Mais en fait, ce qui était contenu à l'intérieur de ce petit flacon, c'était un parfum à base de camphre.
Alors le camphre, il faut raconter l'histoire du camphrier.
Ça peut être surprenant parce que là, on a un flacon du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant les conquêtes d'Alexandre le Grand. Bon, que le camphrier ou les produits du camphrier soient arrivés en Méditerranée occidentale à cette époque-là, non.
C'est délicat. Parce que c'est quand même un arbre qu'on trouve, une essence d'arbre qu'on trouve plutôt.
Et donc, évidemment, là, on était face à une forme d'impossibilité, sauf que, et donc c'est là qu'on travaille en transdisciplinarité, donc on travaille pas seulement avec des chimistes qui nous font les analyses, mais on travaille avec des botanistes, je dirais même plus avec des archéobotanistes, et là, je dirais encore plus avec des archéo-ethno-botanistes. Et puis, c'est cet archéo-ethno-botaniste qui a pu identifier que c'était du camphre qui venait, en fonction des biomarqueurs, que c'était du camphre qui provenait de sauge méditerranéenne.
Alors, on parle, Dominique Frère, de ses travaux et de ses connaissances des parfums antiques. Une petite question, vraiment, là, c'est une question d'enfant, mais je me dis, est-ce que les parfums qui circulaient beaucoup en Méditerranée, vous évoquiez ces milliers et milliers de flacons et de vestiges de flacons qu'on retrouve en fouilles archéologiques dans tout l'espace méditerranéen, est-ce que ces parfums qui circulaient étaient tous les mêmes, ou bien est-ce qu'il y avait culturellement des tendances à aller vers plus ou moins de senteurs, d'arômes spécifiques?
Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre, ce ne sont pas forcément le même type de flacons que l'on fabrique. On a, on va appeler ça des balsamères. Les balsamères, donc Athénia, Attique, sont différents des balsamères corinthiens, qui sont différents des balsamères laconiens, c'est-à-dire de Sparte, qui sont différents des balsamères étrusques, qui eux-mêmes sont différents des balsamères puniques, et qui eux-mêmes sont différents des balsamères phéniciens. Et quand on fait les analyses, on s'aperçoit bel et bien que le contenu est différent aussi. Alors. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Et alors, y compris pour des régions proches. Quand on parle, par exemple, du monde phénico-punique, la Sardaigne appartient au monde phénico-punique. On n'est pas si loin que ça de l'Italie, l'Italie étrusque, par exemple. Et on voit qu'en Sardaigne, par rapport à nos résultats d'analyse, on a, par exemple, la présence de myrte. La présence de myrte, la présence aussi de cyste ladanifère, alors que dans le monde étrusque, nous n'avons jamais identifié ce type de contenu. Et chose curieuse, dans le monde étrusque, ce qui n'existe absolument pas dans le monde grec, on a retrouvé des contenus qui nous orientent plus vers l'Europe continentale et, par exemple, vers l'Europe celtique. On a du brai de bouleau, par exemple. Du brai de bouleau, c'est-à-dire un goudron végétal tiré de la sève du bouleau, dans certains de nos arrivals et à la base étrusque des 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on voit bien qu'on a une identité culturelle par rapport à ces différents parfums.
Alors Dominique Frère, vous évoquez les études de ces contenus de flacons, de parfums antiques. Quelles spécialités vont être mobilisées pour aller identifier finalement la composition de ces huiles parfumées qui existaient il y a un très, très longtemps?
Là, tous ces résultats sont permis grâce à nos amis chimistes. C'est l'approche biomoléculaire qui nous permet d'avoir tous ces résultats. On a aussi testé d'autres approches. On a essayé de croiser les approches, l'approche paléogénétique, alors qui, à l'époque, c'était il y a quelques années, n'avait pas donné de résultats à cause des contaminations. En paléogénétique, les contaminations, c'est le premier problème. On a aussi d'autres approches, comme celle de la palynologie. Pourquoi ? Parce que dans certains contenus, les pollens peuvent être conservés. Donc, c'est l'étude des pollens, des contenus de vases d'huile parfumée.
Et comment, justement, en mobilisant des palynologues, vous les avez éclairés sur des choses, ou en tout cas, eux vous ont éclairé aussi sur des éléments qui vous semblaient un peu troublants. Je crois qu'il y a une histoire, notamment en Sicile, si je ne dis pas de bêtises, avec des agrumes. Alors, comment...
Ah oui, c'est en Sardaigne, oui.
En Sardaigne, pardon.
C'est en Sardaigne, oui, oui. Alors, en Sardaigne, c'est pareil. On a eu une découverte, donc notre chimiste, Nicolas Garnier, qui nous dit que dans une cruche à Bobèche, donc un vase à huile parfumée carthaginois, on va dire punique, du 5e siècle avant Jésus-Christ, du sud de la Sardaigne, donc il découvre des biomarqueurs d'un agrume. Hein, et puis de ce qui est l'épicarpe, c'est-à-dire l'écorce de l'agrume. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Normalement, les citronniers n'apparaissent qu'avec la conquête arabe. Donc, ce qui nous posait quand même, là aussi, encore un anachronisme, un problème important. Si bien qu'on n'avait pas publié sur le coup, puisqu'on attendait d'avoir d'autres résultats. Et les résultats, on les a eus par la suite. Ce sont les collègues palynologues qui ont fait une étude de synthèse, donc sur les agrumes en Méditerranée dans l'Antiquité, et en particulier la diffusion du cédratier. Et le cédratier a été diffusé donc en Europe, en Méditerranée occidentale, que ce soit en Italie du Sud, que ce soit en Afrique du Nord, bien justement à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'avoir une pâte d'agrumes dans un vase à huile parfumée du 5e siècle avant Jésus-Christ, et surtout un vase punique, parce qu'a priori les cédratiers ont été diffusés de l'Est vers l'Ouest par les Phéniciens.
Donc là, on retombait sur nos pattes et ça collait avec nos connaissances historiques. Alors, Dominique Frère, là, on parle des palynologues. Vous parliez aussi des chimistes. Est-ce que ces travaux d'analyse des résidus biomoléculaires qu'il y a dans ces vases permettent d'identifier les essences des végétaux qui composaient ces huiles parfumées antiques ?
Oui, avec des limites aussi, avec des limites. Par exemple, quelques huiles peuvent être identifiées, pas toutes les huiles, mais quelques huiles peuvent être identifiées, dont l'huile d'olive, ce qui tombe bien aussi, puisque l'huile d'olive verte, c'est l'un des premiers composants des parfums, donc des parfums méditerranéens. Des parfums antiques. Des oléorésines, des gommes résines peuvent être identifiées. Par contre, pour tout ce qui correspond à ce qu'on va appeler des notes de tête, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine du fleuri, par exemple les roses, par exemple, pour l'instant, on n'a jamais réussi à identifier. Donc ça ne veut pas dire que les roses n'étaient pas présentes, mais chimiquement, on n'a pas réussi à les identifier. Ça viendra.
Ces roses odorantes étaient très importantes. Il y avait même des villes qui étaient célèbres.
Il y avait Capoue qui était... plusieurs villes qui étaient célèbres. Mais,
Capoue qui était une ville qu'on sentait avant de la voir, c'est ça ? Parce qu'elle était entourée de champs de fleurs.
Oui. Alors, ce n'est pas la seule. Dans l'Antiquité, on avait les roses de Cyrène, on avait les roses de Capoue, mais évidemment, ça fait rêver quand on imagine le voyageur qui savait qu'il arrivait, qu'il était proche de la ville de Capoue quand il sentait les bonnes odeurs de roses. Mais donc, alors Capoue, c'est aussi intéressant parce que c'est les délices de la ville de Capoue, donc ce ne sont pas seulement les huiles parfumées, mais c'est aussi tout l'aspect dangereux des parfums. Parce que, par exemple, lors de la Deuxième Guerre punique, Hannibal, avec son armée, après avoir remporté la grande victoire de Cannes, va quelque peu se perdre dans Capoue. Je dis se perdre dans Capoue, son armée va succomber aux délices de Capoue. Et les parfums, c'est aussi ce danger-là, le danger de l'artifice, le danger de l'artificiel, ce danger du cosmétique, en fait.
On a assez peu parlé, c'est vrai, de leur signification, de leur fonction, de leur usage à ces parfums. On a parlé de leur aspect, bien sûr, esthétique, de leur aspect marqueur social, du lien que ça établissait avec les divinités, dans ce côté volatile et imperceptible, mais il y a d'autres fonctions à ces parfums antiques.
Ah oui, oui. Donc les fonctions, on va dire, sont même nombreuses. Les fonctions rituelles, dont nous avons déjà parlé, et une fonction aussi qui est très très importante, c'est donc la fonction médicinale. Les huiles parfumées sont aussi des huiles médicinales. Et ça, c'est quelque chose qui va exister pendant toute l'Antiquité. Et par exemple, si on parle des moments les plus difficiles, comme par exemple la peste antonine, donc au deuxième siècle après Jésus-Christ, on va prescrire en fait l'utilisation de parfums pour guérir de la peste antonine. Bon, évidemment, il n'y aura aucun effet, hein, ça va de soi. Mais pourquoi ? Mais parce que les parfums, aussi parce qu'ils ont cette dimension de divinité. Et par exemple, les odeurs de laurier. Parce que le laurier, c'est Apollon, par exemple. Et donc, on pense que les odeurs permettent de guérir.
Et là, vous parliez des délices de Capoue et de cette perte des troupes d'Hannibal. Voilà, dans cette côté, peut-être plutôt la version aphrodisiaque des parfums.
Oui, cette version-là aussi, elle est...
Cette version est très, très parfums, importante. Oui. Il suffit de lire les poèmes de Sappho, par exemple,
exactement.
Aussi, qui parlent beaucoup, beaucoup de parfums. Vous avez essayé de recréer certains de ces parfums antiques avec les méthodes de l'ancien temps. Alors, ça ressemblait à quoi ? Vous y êtes arrivé ?
Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir si on y est arrivé, parce que personne de l'Antiquité ne peut revenir pour nous dire si vous avez réussi. C'est tout le problème de l'archéologie expérimentale, hein, comme les collègues qui travaillent sur la bière gauloise et ainsi de suite. On ne peut pas, dans la réalité, on ne peut pas savoir si on a réussi. Alors, oui, avec l'archéologie expérimentale, alors, je ne sais pas si on y est arrivé, mais au moins, on a essayé de reconstituer ces parfums. Et c'est vrai que, de toute façon, on est dans le domaine de la cuisine. C'est pas du tout la parfumerie actuelle, c'est pas de la chimie, c'est pas de la parfumerie actuelle. Donc on est domaine de la cuisine, c'est-à-dire on fait des enfleurages, on fait du bain-marie, on fait macérer. Donc parfois on fait tous les essais avec des feuilles fraîches ou avec des feuilles séchées. On va essayer aussi de faire de la proto-distillation de pétales de rose. On échoue beaucoup parce qu'il y a de très nombreux échecs, mais en fait c'est grâce aux échecs qu'on finit par réussir. Et on a fabriqué des huiles parfumées. On est plus, je dirais, dans le domaine, avec ce qu'on a fabriqué, on est plus dans le domaine des odeurs de cuisine que
odeurs de thym, de romarin,
voilà,
de sauge.
Voilà, de thym, de romarin, de sauge. Sauf pour le distillat donc à la rose, qui était quand même très très intéressant.
Alors c'est intéressant aussi de parler de. Là, on parle beaucoup de l'espace méditerranéen. Pour conclure, Dominique Frère, est-ce que il y a des parfums aussi ailleurs dans le monde antique, en Gaule, dans le monde celte? Est-ce qu'on a des traces de ça ou est-ce qu'on en cherche?
Alors, si on se réfère aux sources écrites, les parfums ne peuvent exister que dans le monde méditerranéen et le monde oriental. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de la civilisation. Donc, un barbare ne va pas se parfumer. Et on dirait même que les barbares, ce qui caractérise les barbares, c'est leur mauvaise odeur naturelle. Voilà. On sait... Alors, on ne va pas dire que les Gaulois se parfument. On n'a strictement aucune source là-dessus. Mais en ce qui concerne des onguents et tout ce qui est du domaine des graisses médicinales, pharmaceutiques médicinales, et en ce moment, on est sur la piste, on fait des analyses de ce qu'on appelle des vases miniatures, donc des petits vases du période de Hallstatt, de la période de l'Athènes, 8e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et on commence à avoir des résultats intéressants.
Eh bien, vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup
avec
à vous,
plaisir.
Dominique Frère, de nous avoir fait voyager par le nez. L'entretien archéologique et Sciences Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.